de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, sur Onde Femme Radio Zone, on reprend la relève, remue ménage. C'est fini, c'est la pleine lune dans vos oreilles jusqu'à 20h en direct. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève. Dans quelques instants, nos nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles. La guerre dans le Golfe ce week-end, comme tous les week-ends depuis le début de la guerre, on a manifesté partout dans le monde contre la guerre. Aux États-Unis, des immenses rassemblements se sont tenus dans des grandes villes, à San Francisco et à Washington principalement. San Francisco, 225 000 personnes selon les manifestants. À Washington, presque plus de 200 000 ont dit non à la guerre lors d'un défilé calme du Capitole jusqu'à la maison. En blanche. Nous ne voulons pas que nos boys aient le moindre doute dans leur esprit au sujet de notre soutien, précisait aussi Martha Wood, mairesse de Winston-Salem, une petite ville où près de 3000 personnes avaient répondu à l'appel d'une association des anciens combattants du Vietnam. Ailleurs en Europe aussi et dans le monde, des immenses manifestations. En Allemagne, où près de 200 000 manifestants venus de toute l'Allemagne ont envahi les rues de Bonn, alors que plus de 20 000 manifestants manifestaient directement à Berlin. Aux Pays-Bas, 10 000 personnes ont défilé à Amsterdam. En Inde, une manifestation pro-irakienne près de New Delhi a tourné dimanche à l'affrontement entre hindous et musulmans, faisant 9 morts et au moins 100 blessés. Au Canada, plusieurs milliers de personnes manifestaient à Toronto. À Paris et dans plusieurs autres grandes villes françaises, plusieurs milliers de pacifistes ont également manifesté. Ils étaient plus de 10 000 dans la capitale. À Tokyo, les manifestants étaient plus de 15 000. Ils protestaient surtout contre l'aide financière apportée par le Japon aux alliés et son projet d'envoyer des avions militaires de transport dans le Golfe. Le gouvernement japonais, sous la pression de Washington, a décidé jeudi de porter de 2 à 11 milliards de dollars son soutien financier à l'effort de guerre contre l'Irak et a promis d'envisager une nouvelle augmentation selon l'évolution du conflit. À Londres également, les pacifistes ont invoqué la marée noire dans le Golfe pour insister sur les risques de catastrophes écologiques dans cette région. En Suisse également, des manifestations principalement à Berne et à Genève-Berne où plus de 20 000 personnes ont manifesté. La fin de la manifestation a été... a été le On a pu voir des non-violents affrontements à la fin de la manifestation, quand une partie de la manifestation, plus de 2000, se sont rendus dans le quartier des ambassades. Le cortège de 2000 personnes a été, selon les manifestants, attaqué sans avertissement préalable par la police. Les policiers ont encerclé les manifestants en utilisant des bombes lacrymogènes et des jets d'eau sans leur laisser d'échappatoire. De nombreux débordements ont eu lieu, fenêtres brisées, voitures, bâtiments endommagés, barricades, mises à feu. Lors de son intervention, la police a arrêté un autobus en marche car une manifestante, armée de pierres et d'une hachette, selon la police, tentait de fuir par ce moyen. D'autres manifestations moins connues ont eu lieu aussi au cours de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Par exemple, lundi 21 juin, des féministes contre la guerre à Paris se sont rassemblées face à la Bourse pour, disent-elles, affirmer leur opposition radicale à la guerre devant ce lieu où s'exprime crûment l'indécence des profiteurs de guerre et des marchands de canons. Dans les jours qui viennent, disent-elles, nous poursuivrons nos actions contre toutes les institutions politiques, idéologiques et économiques qui participent à la logique de guerre. Elles expliquent pourquoi, en tant que femmes, elles sont féministes, disent-elles, contre la guerre. Nous appelons, disent-elles, les femmes à agir, à s'organiser, à prendre la parole partout et contre toutes les formes que prend cette guerre, contre la logique du profit qui se nourrit de la misère et de la mort, contre la propagande belliciste qui aseptise les réalités de la guerre et veut nous faire croire à un conflit sans destruction ni victimes civiles, contre l'hypocrisie d'un prétendu droit international qui n'est que le droit du plus fort et du plus riche, contre les risques de militarisation de la société, d'embrigadement des populations, les menaces contre la démocratie, contre le culte de la virilité et le machisme qui sont indissolublement associés au militarisme et à l'imagerie guerrière. La guerre, disent-elles encore, nourrit les intégrismes de tous bords. Elle ne peut faire que reculer les causes et les libérations des femmes et des peuples. Autre manifestation qui, elle, est plus ancienne et qui a été complètement occultée par la presse et la télévision. C'est une manifestation qui a été qui a vu en septembre 1990 se rassembler dans la capitale du Yémen des associations de femmes jordaniennes, palestiniennes, irakiennes, libanaises, syriennes, algériennes, tunisiennes et yéménites. Ces femmes avaient créé à l'époque un front des femmes pour la paix qui avait décidé d'organiser un bateau de femmes pour la paix qui regroupait des femmes arabes, européennes, japonaises et américaines. Ce bateau porte le nom d'Ibn Khaldoum. Outre sa mission de paix, le bateau des femmes avait pris comme mission s'était donné une mission humanitaire, collecter du lait, de l'alimentation et des médicaments qui, par suite de l'embargo, ont fait défaut aux enfants d'Irak et du Koweït. Mais, bien sûr, ce bateau de la paix a été intercepté par les Américains et sa cargaison confisquée. Et cela bien avant que la guerre commence. Autres avatars du conflit, il paraîtrait qu'aux États-Unis, les enfants qui regardent trop la télévision commencent à avoir peur de la guerre. Pour les rassurer, la télévision a concocté un programme spécial destiné à ces chères têtes blondes, et je dis bien blondes car il semblerait que ceux qui ont peur, ce sont surtout des enfants blancs. En tout cas, c'est ce qu'on a vu à la télévision. Tous les jours, les programmes enfantins, les bandes dessinées, et les Goldorak et autres, des programmes enfantins particuliers, remplacent les bandes dessinées par un spécial, la guerre du Golfe, expliqué aux enfants. Un parterre d'enfants pose des questions. Pourquoi Rambo va pas chercher les prisonniers américains? Est-ce qu'une bombe peut tomber chez nous au Kansas? Pourquoi on n'élimine pas le méchant Saddam Hussein, comme MacGyver? Et pour leur répondre, des journalistes, des militaires. Un seul but, expliquer que les Américains sont les bons, les Irakiens les méchants, que la guerre est juste, bénie des dieux, de Dieu, et que de toute façon, les bombes, elles tombent pas sur nos têtes. Dans un pays totalitaire, on parlerait de lavage de cerveau, mais comme il s'agit du paradis de la démocratie, c'est de l'information et de la psychologie. En parlant d'ailleurs de démocratie, quelques nouvelles aussi qui sont sorties à propos autour de la guerre du Golfe. Vous avez peut-être entendu parler de l'appel de Gilles Perrault, l'écrivain qui, entre autres, vient de publier un livre sur le tyran Hassan II au Maroc. Eh bien, Gilles Perrault, dans une manifestation, avait appelé à la désertion et au sabotage de la machine de guerre française. Car, avait-il ajouté, nous ne sommes pas solidaires de ces dirigeants qui imposent la guerre au peuple et qui ont vendu des armes à Saddam Hussein. Eh bien, un porte-parole du gouvernement va se prononcer bientôt sur l'éventualité d'une poursuite judiciaire. On ne peut pas faire tenir ce genre de propos dans un pays en guerre. Et en Suisse, au Tessin, une lettre ouverte en faveur de la paix a été censurée. Le quotidien tessinois, le Corriere del Ticino, a refusé de publier une lettre ouverte adressée au président de la Confédération, Flavio Coti, signée par 92 personnalités tessinoises qui demandaient une paix immédiate dans le Golfe. À propos, toujours sur la guerre du Golfe, est-ce une coïncidence ? Les principaux États exportateurs d'armes pour la période 85 à 89 sont l'Union soviétique, les États-Unis, la France, la Chine et la Grande-Bretagne. Coïncidence, les cinq pays qui détiennent officiellement la bombe atomique sont également les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et à ce titre ont tous les droits de veto. Ce sont aussi les fameuses forces de la coalition. Cette guerre, va frapper lourdement les civils. Et c'est aujourd'hui que commence une campagne mondiale pour les victimes de la guerre. La campagne mondiale qui a été décidée il y a 3 ans a été lancée dernièrement par le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. On rappelle que depuis 1945, 105 conflits ont eu lieu. Ils ont fait 20 millions de morts et 60 millions de blessés, prisonniers ou réfugiés. Ce sont les pays du tiers-monde qui ont jusqu'à ce jour fait les frais de ces conflits, bien souvent au moyen d'armements relativement peu perfectionnés. Ce n'est pas le cas dans cette guerre que nous vivons aujourd'hui. Autre réalité triste et réalité d'aujourd'hui, c'est que 90% des victimes sont des civils et il y a énormément de femmes parmi elles. Conséquence aussi de la guerre du Golfe, le fossé se creuse entre Palestiniens et pacifistes israéliens. Depuis le début de la guerre du Golfe, les territoires sont bouclés et le couvre-feu n'y est levé que quelques heures par jour et par endroit seulement pour aller au ravitaillement. 1,5 million de Palestiniens sont contraints à vivre entre 4 murs, ce qui prive ainsi des dizaines de milliers de pères de famille de leur gagne-pain. Le fossé entre Palestiniens et pacifistes israéliens dérive entre autres de soutien que les Palestiniens apportent à Saddam Hussein. On rapporte entre autres que Faisal el-Husseini, le porte-parole de l'intifada à Jérusalem, aurait apporté son soutien à l'attaque au missile sur Tel Aviv. Au contraire, dans une interview accordée au journal italien Il Manifesto, Faisal el-Husseini dit justement condamner tout bombardement sur des civils, que ce soit à Tel Aviv ou à Bagdad. Mais cette interview a ajouté un malaise et a approfondi le fossé qui sépare les pacifistes israéliens des Palestiniens. Shulamit Aloni, présidente du petit parti écologiste et pacifiste Ratz, devait faire savoir à Faisal el-Husseini que, je cite, « tout dialogue devenait inutile tant que le tyran de Bagdad fera tout son possible pour nous détruire et que vous ferez cause commune avec lui ». Fin de citation. Faisal el-Husseini s'est étonné que personne n'ait pris la peine de lui téléphoner pour vérifier la véracité de ses propos qui lui furent attribués. En tout cas, les pacifistes israéliens ne font pas grand-chose pour maintenir le dialogue avec les Palestiniens. Ils ne semblent pas s'émouvoir, outre mesure, de la durée exceptionnelle du couvre-feu qui règne dans les territoires. Toujours autour de la guerre du Golfe, c'est vraiment la nouvelle malheureusement dont on doit parler beaucoup, une société britannique a décroché un contrat pour la fourniture de 500 000 préservatifs camouflés de couleur sable destinés aux soldats alliés dans le Golfe. Mais la société a précisé que les préservatifs seraient exclusivement destinés à un usage militaire. C'est pour protéger du sable le fût des canons des fusils et non pour protéger autre chose. Conséquence, à la bourse de Tokyo, les actions de la firme japonaise de préservatifs ont progressé de près de 10%. Les investisseurs se sont rués sur le titre après avoir appris l'usage militaire des préservatifs dans le désert. Et dernier avatar de ce conflit, à Genève, depuis le début des hostilités dans le Golfe, des femmes arabes portant le tchador auraient été grossièrement injuriées ou même bousculées dans la rue, selon le porte-parole de la Fondation culturelle islamique. En Suisse, un projet de nouvelle caisse maladie fait grincer des dents. Une nouvelle assurance mutuelle pour les malades et les accidents est soumise actuellement à l'examen de l'Office fédéral de la santé. Il s'agit d'une assurance pro-life. Son originalité, si on peut dire, réside dans ses buts. Qu'elle prétend poursuivre, défendre le droit à la vie et par là même diminuer le montant des primes et lutter contre l'inflation des coûts de la santé. Pour parvenir à de telles fins, les statuts de ProLife prévoient une clause dite éthique qui exclut certains traitements du champ de couverture. Il s'agit de la stérilisation et de l'avortement. Si vous promettez de ne pas avoir recours à l'avortement, votre assurance maladie sera moins chère. Telle est donc la proposition de ce nouveau projet de caisse maladie ProLife. Cela dit, en l'occurrence, la loi sur l'assurance maladie, la LAMA, exige la couverture de l'interruption de grossesse. Et donc, même si des gens ont signé cette assurance pro-life et se sont engagés à ne pas avorter, ils peuvent toujours demander un remboursement. La caisse anti-avortement est soutenue par deux associations, Oui à la vie et Aider au lieu de tuer, forte d'au moins 60 000 membres. Pour faire valoir leur projet, les tenants de ProLife avancent quelques chiffres, dont l'exactitude est toutefois contestée. Sur le plan collectif, il faut considérer, disent-ils, qu'environ 30 000 interruptions de grossesse sont effectuées chaque année en Suisse, pour des coûts directs estimés à 100 millions de francs. Ce qu'il y a de plus cher et encore est ce que coûte l'interruption de grossesse individuellement du fait des lendemains de l'avortement. On peut globalement, entre le gynécologue et le psychiatre avant tout, l'évaluer à 100 000 francs pour chaque patiente, prétend le directeur de ProLife. Aussi, ne couvrant pas les risques d'avortement, ProLife arriverait à se contenter de cotisations plus basses que la moyenne. Pour l'instant, ProLife est encore ausculté par l'OFAS, mais ils ont décidé d'ouvrir déjà deux bureaux dans les cantons de Berne et de Saint-Gall, où déjà des gens sont venus s'inscrire. Signalons que la plus grande organisation internationale militant contre l'avortement, le Right to Life, d'essence américaine, est domiciliée à Lausanne. À propos de cette initiative, la Martine Dondena, présidente de l'Union suisse pour la décriminalisation de l'avortement, s'indigne. Elle dit « Certains arguments servant de fondement au projet ProLife sont des mensonges. Les interruptions de grossesse non couvertes par cette caisse le seront forcément par d'autres. Donc, aucune économie ne sera réalisée dans le secteur de la santé. De plus, les promoteurs de cette assurance affirment la nécessité de soins psychiques à l'issue des avortements. » Presque systématiquement, mais ce presque, dit-elle encore, n'est ni une donnée statistique, ni une donnée médicale. Martine Dondenas conteste par ailleurs les chiffres avancés par ProLife. 30 000 avortements par an, dit-elle, c'est complètement exagéré. D'après les statistiques, on peut évaluer le nombre d'avortements à 14 000 par an. En plus de ces critiques, à l'encontre de Pro-Life, l'Union suisse pour la décriminalisation de l'avortement déplore la situation actuelle. L'avortement n'est pas encore un droit et nous continuerons, dit-elle, à défendre le principe du délai légal de 12 semaines ainsi que la possibilité de prescrire la pilule abortive, le RU 486, dans notre pays. En France, à Lille, fait divers des plus bizarres. Un bébé pleure dans un tribunal, sa maman écope d'une peine de prison. Cette femme était venue assister son amie qui passait au tribunal. Elle a donc fini en cellule, 35 jours ferme, parce que son petit bébé de 18 mois a pleuré. Les faits se sont passés le vendredi 18 janvier. À 13h, à Lille, Véronique, 27 ans, est venue exprès avec son bébé de 18 mois et sa fille de 7 ans pour attendre que comparaisse son amie interpellée pour une histoire de cambriolage. Mais l'instruction est longue, c'est une petite histoire et il faut attendre. Le bébé met cette longue attente pour commencer à pleurnicher. Trouble du tribunal, de la sérénité des débats, clame le président Pierre Simon, qui demande à la jeune femme de quitter la salle. Elle va donc se promener. Une fois le bébé assoupi, elle revient dans la salle et paf, le bébé se remet à pleurer. Ordre du président, nouvelle sortie. Elle attend dehors jusqu'à 19h. Finalement, tout à coup, son copain arrive au box des accusés. Malgré l'interdiction de rentrer dans la salle, elle revient avec ses enfants. La petite fille, tout à coup, s'écrie « Papa !» en reconnaissant son papa dans l'homme qui est au box. Pour le président Simon, cette dernière manifestation est une atteinte à la maîtrise de la police de son audience. Il ordonne aux gardiens présents d'expulser la petite famille jugée inconvenante. « Petit con !» lance la jeune mère excédée qui se dirige pour la troisième fois vers la sortie avec sa fille et son bébé. Catherine Lelong, la substitut du procureur, enregistre l'insulte et demande au président de relever l'outrage sur le champ. Le président Simon s'exécute et ordonne aux policiers d'arrêter Véronique, de l'escorter au sous-sol jusqu'à la prison du tribunal. Elle est ensuite inculpée d'outrage au magistrat. Sa comparution est immédiate. Le représentant du parquet demande 40 jours de prison ferme pour l'exemple. J'ai cru d'abord à une plaisanterie, raconte l'avocate. Mais le ministère public ne plaisantait pas. Le président Pierre Simon a jugé 35 jours de prison ferme et mandat de dépôt immédiat pour la maman qui ne s'est pas calmée son bébé. Heureusement, l'ordre des avocats de Lille a été pris à partie et s'est insurgé contre cette condamnation. Visiblement, les mamans ne sont pas aimées par les tribunaux. Une Algérienne de 51 ans a été condamnée à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis, pour avoir provoqué une fausse alerte à la bombe dans un magasin à Paris. Sa fille avait été arrêtée dans le magasin, prise en flagrant délit de vol de vêtements. La maman était alors sortie dans la rue et avait téléphoné à 4 fois à la direction du supermarché d'une cabine téléphonique pour signaler la présence d'un colis piégé. Elle espérait que les services de sécurité, dans l'affolement, laisseraient filer sa fille. Le magasin n'a pas été évacué, mais la mère a été interpellée et condamnée donc à 6 mois de prison. Il n'y a pas que dans les tribunaux que les mamans ne sont pas appréciées. La maternité est toujours vécue comme une trahison dans le monde du travail. D'après une recherche d'une sociologue, Anne-Marie Devreux, la femme enceinte n'a toujours pas trouvé sa place dans le monde du travail. En France, dit-elle, les femmes enceintes dans les entreprises sont toujours aussi mal perçues. La catégorie la plus protégée des femmes enceintes est celle des professions intermédiaires. Ce sont en effet des milieux beaucoup plus féminisés où il y a une compréhension et une entraide entre collègues. C'est aux deux extrêmes que les situations sont les moins enviables chez les ouvriers et chez les cadres supérieurs. Pour une femme ouvrière, lorsqu'elle est enceinte et qu'elle demande une mutation de poste, on la met sur un poste moins pénible. Mais alors, elle se retrouve avec d'importants problèmes financiers dans la mesure où elle perd certaines de leurs primes habituelles. Chez les cadres supérieurs, la grossesse se paye en termes de carrière. Pour en atténuer l'incidence, les femmes ont tendance à rester le plus longtemps possible au poste et à jouer avec les périodes de vacances. Tout se passe aujourd'hui comme si l'absence pour vacances était plus légitime que l'absence pour congé maternité. Pour les femmes cadres, c'est souvent être enceinte et souvent vécu par l'employeur comme une sorte de trahison. Cadre, elle appartient à l'entreprise. Par sa grossesse, elle rappelle qu'elle appartient aussi à un autre monde que celui du travail, à une vie familiale extérieure à l'entreprise. L'idéologie selon laquelle la place des femmes est à la maison, à la vie dure. Le cadre doit être tout entier disponible pour son entreprise. C'est donc forcément un homme. Aujourd'hui, si la maternité et le travail des femmes sont conciliables, ce n'est vraiment pas grâce aux employeurs, mais grâce aux femmes elles-mêmes qui se débrouillent par mille petites pratiques préventives pour protéger à la fois la vie de l'enfant à naître et leur place dans la production. Quand une première grossesse est déjà mal vue, mais alors si on tombe une deuxième fois enceinte, c'est vraiment une récidive. Au Liechtenstein, première historique, les habitants de Liechtenstein ont élu dans leurs conseils communaux. C'est Maria Marxer a été élue à la présidence de la commune de Gamprin. C'est une première, car c'est la première fois dans l'histoire du Liechtenstein qu'une femme devient la présidente d'une commune. En Colombie, mort d'une journaliste séquestrée, la journaliste colombienne Diana Turbay a été trouvée morte lors d'une opération de police vendredi pour la libérer des extradables, bras armés du cartel de la drogue de Pablo Escobar qui détenait la journaliste en otage depuis 148 jours. En Suisse, les femmes veulent 50% des fauteuils au pouvoir. Autant de femmes que d'hommes sur les conseils du Conseil national, c'est possible. Le comité de soutien à l'initiative Conseil national 2000 l'a relevé. Ce comité est soutenu par une série d'organisations féminines de toutes tendances. Le système proposé prévoit d'élire séparément les hommes et les femmes au moyen de listes distinctes pour chaque parti. Quand les femmes auront le même poids que les hommes au Conseil national, on verra se dessiner des nouveaux accents qui bouleversent certaines façons de penser et de décider, a déclaré Ursula Nakamura Stöcklin, coprésidente de l'Association suisse pour les droits de la femme. 20 ans après l'introduction du suffrage féminin, la participation des femmes au Conseil national s'élève à 13,5%. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Je voulais juste encore vous signaler que je viens de recevoir ma fiche. Alors j'ai appris, entre autres, que je passe mes week-ends dans une maison de campagne à l'extérieur de la ville et que je suis animatrice à Radio Zone. Voilà des secrets qui mettent en danger la sécurité de l'État suisse.
Count your fingers. What can do, old girl, you are through. Sit there, count your little fingers, unlucky little girl blue. Just sit there, count the raindrops, they're falling on you, and it's a time, it is time that you knew.